Attention, il est tard, c'est Supersonic. De toute façon, il vaut mieux qu'il fasse nuit, comme ça on voit mieux les étincelles. Suivez la mèche qui se consume, suivez-la des yeux et profitez à l'arrivée du grand badaboom. La transmission chante aujourd'hui, on peut l'entendre grâce à des machines californiennes. C'est toujours mieux quand elles sont californiennes, les machines. La transmission chante et le son est transmetteur, repère, révélateur. Suivez l'onde, trouvez le bonhomme, la culture a ses machines, les machines ont leur culture. Bienvenue les androïdes, allez, on vous explique tout et du monde autour de la table. Installez-vous avec nous. Oui, on vous explique tout, le son révélateur, l'onde qui révèle des histoires multiples, des histoires chroniquées, des tranches de vie et le temps et l'invisible. C'est dans Journal audio-biographique d'Alexandre Castan dont on parlera dans pas longtemps. La conversation glissera ensuite vers Nicolas Becker, sound designer et chercheur de son pour le cinéma, qui a travaillé récemment sur des films comme Gravity d'Alfonso Cuarón, ou Cosmopolis, David Cronenberg ou encore avec Roman Polanski régulièrement. Il travaille aussi avec plusieurs artistes contemporains dont par exemple Philippe Parreno. Il nous accompagnera dans la dernière ligne droite de l'émission. Mais avant ça, la transmission qui chante, une histoire de non-sens et de science, c'est tout de suite. Pour commencer donc, on se rend dans les coulisses d'un documentaire diffusé bientôt sur France Culture et qui donne lieu à une belle histoire de son avec vous, Arthur Bégilet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous donc pour nous présenter, pour évoquer avec nous ce documentaire qui sera diffusé dans Création on Air sur France Culture le 29 juin, soit mercredi dans 10 jours, grosso modo, mercredi en 8 comme on dit. Ça s'appelle Nonsense Mélancoly, ça a été fabriqué avec Marie-Laure Ciboulet et Pierrick Charles. Et le point de départ de cette histoire, c'est la découverte d'une figure littéraire, un peu oubliée, une figure britannique qui s'appelle Edward Lear, c'est ça ?
Oui, Edward Lear, je l'ai découvert par un groupe de musique, en fait, un groupe de musique qui gravite à Paris avec que des vieux briscards, un arrangeur de Bachung, un contrebassiste de Higelin et le batteur de Moriarty, donc groupe dont je fais partie. Mm-hmm. Et ils ont repris des poèmes de cet auteur anglais du 19e qui est un peu le grand-père, l'arrière-grand-père du psychédélisme, je crois.
Ah oui?
Ouais, je dirais ça. Enfin, lui, ils disent ça, en tout cas. Ben, c'est grâce à lui qu'il y a Paperback Writer des Beatles, que Lennon a inventé le Lennon Sense.
Ah oui?
Ou là où lui avait inventé le Nonsense.
Il avait influencé aussi Lewis Carroll, c'est ça?
Ben, je dirais que ce qui se dit, c'est que 10 ans avant Lewis Carroll, il est 10 ans plus âgé, il faisait déjà des histoires, il racontait déjà des histoires. Il était illustrateur, poète, il donnait des cours de dessin à la reine.
Ornithologue aussi, non?
Ornithologue, oui. Ouais. Il y a plusieurs perroquets qui portent son nom.
Ça, c'est un signe de gloire. Donc, pas complètement oublié cet Edward Lear qui innerve donc en quelque sorte la culture pop, puisque vous dites que c'est celui qui a en quelque sorte inventé le psychédélisme. Une figure malade.
Très malade, Edward Lear. Il souffrait d'épilepsie et c'est présent dans beaucoup de ses poèmes et ses illustrations aussi. Et donc, un rapport au monde très particulier parce qu'il a ces énormes crises de dépression après ces crises d'épilepsie qui durent des semaines. Où il est chétif. Il faut dire que c'est l'avant-dernier d'une famille de 20 enfants.
Ouais.
Et donc, il a passé toute sa jeunesse très malade à cause des crises. Et puis, à l'époque, en plus, c'est le signe du démon, l'épilepsie. Mmh. Donc, très tabou. Et il en parle tout de même dans ses poèmes, sans vraiment savoir que c'est de l'épilepsie, d'ailleurs. Et il m'a mené dans plein d'endroits très particuliers pour ce documentaire.
Oui, il vous a emmené dans des endroits qui... Enfin, jusqu'en Californie, alors c'est ça, en quelque sorte.
Oui, je n'y suis pas allé, hein, c'était par téléphone.
Ouais.
Oui, je me suis intéressé donc à l'épilepsie, que je connais assez mal, si ce n'est pour avoir aidé une jeune femme lors d'un de nos concerts de Moriarty, qui a eu une crise pendant un concert.
Ouais.
Et en fait, on est allé. Donc, j'ai contacté un centre qui fait des recherches très poussées sur l'épilepsie à Stanford, le Parvisi Lab, d'après le nom du chercheur principal qui s'appelle Joseph Parvisi, et qui est en lien avec un laboratoire de musique expérimentale qui s'appelle le Karma, CCRMA.
Mais qu'on appelle le Karma.
Qu'ils appellent eux-mêmes le Karma.
Ouais, ouais.
Donc, produit des années 60, qui à l'époque avait les premiers ordinateurs avec la première musique assistée par ordinateur.
Voilà, psychédélisme déjà et ordinateur. Donc, on est bien en Californie.
Et ça va très bien, Edward Lear.
Ouais.
Et ce sont des gens qui travaillent, un énorme laboratoire de musiciens, qui travaillent, musiciens-chercheurs, qui travaillent sur plein de sujets différents. Et j'ai trouvé un chercheur donc, qui a travaillé sur l'épilepsie, qui récupère les données d'électrodes plantées à l'intérieur du cerveau des patients et qui en fait une musique qu'il appelle des sonifications, donc une musique de cerveau d'épileptique.
Une musique de cerveau, mais alors il faut bien comprendre que donc, ces capteurs qui sont sur le cerveau, hein, pas sur la boîte crânienne, mais sur le cerveau, captent non pas du son, mais des fréquences, des vibrations.
Des fréquences, ils appellent ça en fait des brain waves, donc
des ondes du cerveau,
qu'il décrit un peu comme... alors il a deux métaphores, il décrit à la fois comme une lente houle qui d'un coup s'agite, ou alors un feu de cheminée dans lequel il y a des braises à l'état de repos, disons, et tout d'un coup des flammes s'animent et dansent un peu comme ça quand les neurones commencent à s'entrechoquer pendant une crise d'épilepsie.
Mais on comprend dans ce que vous dites, Arthur Bégilet, qu'on est aux confins à la fois du savant, de la médecine... et de la musique. Alors, est-ce qu'on est dans le soin, dans cette expérience-là ?
D'abord, c'était un geste artistique, parce que c'est d'abord un compositeur. Il s'appelle Chris Chafe, je devrais dire. Et il est violoncelliste et il est toujours partisan. Il cherche toujours des nouvelles aventures. Donc, il a travaillé sur la sonification des données des carottes glaciaires. Donc, 400 000 ans de données sur l'émission de CO2, où on se rend compte que c'est un son tout à fait normal jusqu'à les derniers 80 ans où tout d'un coup, on dirait qu'il y a un problème informatique. Et donc, pour cette aventure-là, il s'est donc intéressé à... Il a été appelé par le laboratoire qui travaille sur l'épilepsie. Et donc, il cherche toujours de nouvelles aventures musicales, m'a-t-il dit au téléphone quand je l'ai interrogé pour le documentaire. Et voilà, il est très avide. Et ce qu'il a entendu à l'occasion de cette transposition, c'est une musique qu'il n'aurait jamais pu imaginer.
On va entendre ça, justement, cette musique-là. On va écouter, on va dire, la manière que vous avez eue de poétiser cette histoire-là que vous venez de nous présenter dans un extrait de donc Nonsense Mélancolie, cette émission qui a été réalisée par Marie-Laure Ciboulet et qui sera donc diffusée le 29 juin, mercredi 29 juin à 23h sur France Culture, dans Création NR. Donc un extrait de ce Nonsense Mélancolie. On se plonge finalement dans cette rencontre avec Edward Lear, et on va entendre finalement les neurones chanter, en quelque sorte.
Frérot.
C'est qui ?
C'est Anne, Edouard.
C'est vrai, poulette.
Edouard, tu es dans un scanner à Stanford, en Californie.
Monsieur Lear ?
Oui ?
Je suis le neurologue.
Il écoute ton cerveau avec son ami Chris pour comprendre ton épilepsie.
Chut. Ne dites pas ce mot.
Don't worry, Mr. Lear. C'est encore une maladie qu'on connaît mal en 2016, mais on essaye de la diagnostiquer. On utilise des données qu'on recueille avec des électrodes au fin fond de votre cerveau, Mr. Lear. Vous voulez écouter ? On fait une sorte de musique.
Je ne sais pas. Bon.
Bien. Voici la musique du cerveau d'une patiente. Elle était hospitalisée pendant une semaine. L'idée était d'attraper ces cris, de les enregistrer pour faire un diagnostic.
You hear the sound of the brain. Normal brain activity in the foreground. And in the background, you hear the sound of the heart.
Ceci est le son du cerveau. Une activité normale du cerveau au premier plan. Et derrière, on entend le cœur.
Now you hear that the sound of the brain is...
Maintenant, on entend le son du cerveau qui devient plus désorganisé. Disorganized.
Going into more rhythmic.
Il rentre dans une activité plus rythmique et rapide.
And faster activity. And the heartbeat has become faster.
Et le cœur est devenu plus rapide.
Here we are in the midst of seizure.
Nous sommes au milieu d'une crise.
As you can hear, the heart rate has become significantly
faster. Comme on entend,
faster.
Les battements du cœur sont beaucoup
and
plus rapides.
Brain sounds are much more rhythmic.
Et les sons du cerveau sont plus rythmiques.
Yet the patient is
pourtant, le patient est calme,
quiet, lying in bed. You may not even notice she's having seizure.
Allongé dans son lit. Peut-être qu'on ne remarquerait même pas qu'il est en crise.
Now, the seizure has stopped. You hear these loud noises.
Maintenant, la crise s'arrête.
As if some forces are
on entend ces sons très forts, comme si certaines forces venaient empêcher les millions de neurones de s'entrechoquer.
Brain is tired.
Le cerveau est fatigué.
Patient is often disoriented.
Le patient est souvent désorienté ou confus.
And the heart rate goes back.
Et le battement du cœur revient à la normale.
But when my frenzied fit is over, a dreary hour comes on, a consciousness of unknown things, of reason overthrown. Cold runs my blood from vein to vein.
Cold, cold, cold.
All vacant is mine eye, and in my ears a sound of death and dread eternity.
Death, eternity.
Papa? Papa?
Edouard?
Ça va? Ça va?
Voilà un extrait de Nonsense Mélancolie, votre émission. Oui, je disais qu'il poétise ce phénomène-là, justement, à travers la figure d'Edouard Lear, de cette épilepsie qui se transforme finalement en musique du cerveau. Arthur Bégilette et le travail sonore, on le rappelle, de Pierrick Charles sur cette émission qui est donc diffusée mercredi en 8, le 29 juin à 23h sur France Culture. Faut dire que c'est une épilepsie spéciale, hein, c'est ce dont il est question. C'est une forme d'absence au monde plutôt que l'image qu'on a traditionnellement de l'épilepsie, des spasmes.
Oui, c'est pas du tout une crise convulsive. C'est une crise comme décrit le docteur Parvici dans l'extrait qu'on a entendu. Où parfois, on pourrait même ne pas se rendre compte que le patient est en train d'avoir une crise. Il a des absences, mais en réalité, on pourrait présupposer que c'est même pas de l'épilepsie. Ce qui est important aussi, c'est que cette épilepsie provoque, par contre, dans la durée, vraiment des graves. C'est poétisé là. Je fais de façon un peu poétique dans l'émission, mais c'est très grave évidemment. Et c'est ce que dit le chercheur musicien Chris, que j'ai interrogé, c'est qu'à la fois c'est lumineux, quelque chose de très lumineux, les sons qu'on entend, et à la fois il y a une forme de mélancolie très profonde.
C'est lumineux, mais il a fait le choix, par exemple, de faire en sorte qu'on ait l'impression d'entendre des voix, des chants. Il dit dans l'entretien qui vous a accordé qu'il aurait pu choisir des cordes, par exemple.
Oui, il fait le choix d'utiliser la voix humaine parce qu'il dit que ce sont des sons qui viennent du corps humain. Donc c'est logique d'utiliser comme son porteur la voix humaine.
On voit l'acte du compositeur aussi.
Tout à fait. C'est lui qui décide. Évidemment, ça pourrait sonner sans doute totalement différent. On entend aussi qu'il y a de la réverb. Il rajoute beaucoup de réverb. Donc, c'est forcément une interprétation subjective. Et surtout, ce qu'il aime beaucoup, je crois, enfin, c'est ce qu'il m'a dit dans cette musique, c'est qu'elle est, il appelle ça diagonale. Elle progresse. Si on regarde la progression dans le temps, si les neurones sont comme des instrumentistes, ils ont à la fois des partitions totalement séparées qui parfois se rejoignent, deviennent synchrones et à nouveau se séparent.
Ce qui peut faire évoquer certaines musiques pygmées, c'est ce que vous lui dites d'ailleurs dans cet entretien.
Absolument, ouais, et certaines polyphonies pygmées ressemblent exactement à ça. Et lui-même a beaucoup parlé avec un ami à lui qui est musicien de jazz, de Dixie, qui lui disait, mais c'est exactement ce qu'on fait en Dixie.
On s'éloigne, on se retrouve. Voilà. On va écouter justement Chris Schaeff, donc ce compositeur que vous avez interviewé pour la partie, on va dire, background pour l'enquête en amont de ce documentaire, enfin de cette émission qui est diffusée mercredi. Donc Chris Schaeff, qui est donc compositeur et qui travaille pour ce laboratoire. Le Karma, c'est un beau nom. Alors voilà ce qu'il dit. Quand les neurones commencent à s'entrechoquer, les rythmes qui se jouent sont quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant.
about finding new types of music.
Je suis toujours plutôt musicalement insatiable et je recherche souvent de nouvelles musiques qui retiennent mon attention et attisent ma curiosité. Quand j'ai traduit ces données du cerveau, une musique que je n'aurais jamais pu imaginer ni même composer a surgi. Cette crise d'épilepsie est un monde musical à soi, ce qui, quand on y pense, est tragique et à la fois lumineux. Ces traductions musicales sont une fenêtre sur quelque chose qui est organisé et désorganisé à la fois. Quand on écoute la traduction musicale des moments où le cerveau est calme, l'effet est très différent. Est-ce qu'on peut considérer, Arthur Gillette, que Chris Schaeff, qu'on vient donc d'entendre, est le co-compositeur? C'est-à-dire qu'il y a le malade et on prend sa propre musique interne.
Et oui, maintenant on est trois en plus parce que pendant l'émission, j'ai utilisé ces musiques et puis j'ai, dans les studios de Radio France, on a avec Pierrick Charles, en binaural, je précise, on a en plus rajouté une couche en jouant avec de l'eau dans des bouteilles comme on a devant nous, des verres en cristal.
Donc il faut écouter au casque alors cette émission de préférence avec des oreillettes pour être bien immergé dans ce son en 3D donc, que vous avez utilisé.
Si on peut, oui.
Si on peut changer l'écoute, c'est ce que dit aussi quelque part Chris Schaeff, son idée c'est de produire comme ça, changer l'écoute, parce que si un corps fait de la musique, ça veut peut-être dire que c'est le corps, notre corps, qui va écouter.
Oui, enfin, ce qu'il dit, si je comprends votre question, c'est que nous avons une sorte de familiarité avec les sons qu'on entend, bien qu'on ne pourrait absolument pas imaginer une musique comme celle-là. On a quand même, en tant qu'humain, en tant qu'être humain, une familiarité avec les sons qui sont en nous. Mm-hmm. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. Et je trouve que ça s'applique à plein de domaines, d'ailleurs.
Alors, est-ce que ça change la manière de faire de la musique, puisque donc on l'a dit, vous faites partie du groupe Moriarty, et aller vers ce type de composition quand même étonnante, corporelle, organique, est-ce que ça change la manière de jouer en ce qui vous concerne?
C'est toujours des processus longs et qui prennent du temps, mais je suis sûr que ça va infuser et peut-être que le prochain disque de Moriarty ou d'autres projets. Mm-hmm. Qu'on peut chacun avoir, seront dans ce sens, ouais, je sais pas.
À noter un hommage aux musiciens réunionnais, hommage à Alain Peters, ça sort ces jours-ci, Moriarty et Marjane and Carlin and Friends, c'est ça? Le titre, Wati Watia The Reband.
Ouais, les oreilles, ce sont les blancs, les métropolitains de la Réunion qui ont les oreilles toutes rouges parce qu'ils bronzent pas très bien, donc on appelle ça les oreilles.
Les oreilles, et en attendant, avec nos oreilles, Nonsense Mélancolie, c'est diffusé donc mercredi 29 juin, Arthur Bégillette, Marie-Laure Ciboulet, Pierrick Charles, c'est sur France Culture donc à 23h le 29 juin. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci.
Sculptures of them, then drags them to the river's bank and the court. Their soggy paper bodies wash ashore in the dark, and the priest defended, now demanding from Miguel of his well-dressed as men for the pleasure of that priest.
David Bowie, The Next Day, et bientôt l'invité suivant. Et l'invité suivant, c'est Alexandre Castan. Il enseigne, il écoute, il écrit. Voilà le triptyque de son activité d'essayiste et critique d'art sonore, souvent et sans cloisons artificielles. Bonsoir Alexandre Castan.
Bonsoir Thomas.
Vous venez nous présenter votre petit dernier, qui est paru aux nouvelles éditions Scala, journal audiobiographique avec ce triple sous-titre radiophonie, art, cinéma. Écrire sur le son, ça permet de mieux écouter.
Alors, écrire sur le son, en tout cas, est intimement lié à la question de l'écoute et oblige d'une certaine manière à une forme d'immersion dans cette écoute. Et j'étais vraiment tout à fait charmé par la question poétique, mais la question des métaphores qui finalement apparaissait à nombreuses reprises. Il y a la question de la métaphore médicale, mais aussi, on parle de musique diagonale, la métaphore du feu de cheminée, je crois, ou des ondes. Autant de mots qui sont nécessaires finalement pour essayer de cerner cette question de l'écoute et de la rendre d'une certaine façon matérialisable dans le texte.
La question de la matérialisation du texte, elle est au centre de ce journal audio-biographique et ses différentes parties, puisqu'il est question à la fois du son dans le temps, mais aussi de l'invisibilité comme un mystère que l'artiste doit saisir, et en particulier l'artiste sonore. La forme du journal audio-biographique, déjà dans le titre, une multitude de tiroirs possibles, au-delà du jeu de mots même, le journal, l'activité de diariste, comme on dit, voilà, la chronique de son propre temps, de sa propre intimité. Vous dites que ça va bien au son, cette forme-là, pourquoi ?
Ça fait partie, disons, des champs de recherche, effectivement, qui sont à l'œuvre dans ce travail sur les arts sonores. L'un de ces chantiers, il me semble, vient de la proximité que j'ai assez vite pressenti sur la phonographie et la photographie. Alors, pour des questions, disons, d'enregistrement, de relations entre la présence et l'absence, comme le photographique, il y a dans le phonographique le son enregistré et dans l'expérience sonore, voilà, ce curieux dialogue entre l'incarné et le disparu. Alors ça, effectivement, en liaison avec le photographique, pour art et médium, pour lesquels finalement le journal en image est un élément très important, la photographie accompagne les jours, et d'une certaine manière, une des idées, c'était de se demander jusqu'à quel point le son ne pouvait pas avoir cette fonction accompagnatrice, finalement, d'une existence, au même titre qu'un journal photographique.
Là, on est dans une question liée au temps aussi, c'est-à-dire que c'est comme dans un journal intime, il y a une expérience intime, subjective, qui se déroule. La question de l'écoute du son, forcément, implique un déroulement. C'est aussi là qu'il y a une familiarité. Les deux formes.
Bien sûr, il y a cette question de la temporalité qui est absolument centrale dans la perception et aussi dans les traces. Dans les traces, les empreintes telles que le son enregistré peut les produire. Alors, bon, effectivement, comme vous le dites, c'est une forme de kaléidoscope aussi, ce livre. Et il y a une œuvre en particulier qui a activé ces questions. C'est une artiste britannique, Georgina Starr, qui a fait une exposition précisément sur les enregistrements de sa vie, d'une certaine façon, mais qu'elle produisait sous forme de disque vinyle. Si bien que ces accompagnements sonores trouvent également leur ancrage dans une forme graphique et visuelle. Les sons, avec cette œuvre, trouvaient aussi une espèce d'écriture en filigrane qui se développait.
Alors, vous ouvrez votre journal audio-biographique Alexandre Castan par une série d'autres journaux sonores. C'est un journal des journaux, en tout cas dans sa première partie. Et en particulier, vous faites référence à ça.
Lundi 7 septembre 1959. Jean Cocteau commence aujourd'hui la réalisation de ce testament d'Orphée qu'il a eu tant de peine à mettre sur pied. Autant de peine, dira-t-il, qu'un jeune qui ferait son premier film. Après 2 ans de difficultés, surmontées grâce à ses amis, grâce à un producteur intelligent et audacieux, Jean Tuilier, et surtout grâce à cette foi qui, dit-on, remue et soulève les montagnes. N'a-t-il pas écrit en exergue, à son scénario, cette phrase du procès de Jeanne « Je l'ai bientôt cru et j'ai eu la volonté de le croire ».
Alors Alexandre Castan, en quoi cette émission de Roger Pilaudin de 1959, ce journal d'un tournage du Testament d'Orphée, donc qui est un film de Jean Cocteau avec Jean Cocteau et Yul Brynner, voilà, est tourné dans les carrières des Baux de Provence. Ça fait l'objet du premier épisode de ce journal assez long, sur une série de reportages assez long, où Roger Pilaudin, en reporter, va directement sur le plateau pour enregistrer et en tout cas nous faire croire, peut-être, ça a été peut-être refait en partie, mais nous faire croire qu'il va recueillir à chaud les réaction de Jean Cocteau, à la fois poète, comédien, réalisateur. Il y a ce côté à vif, ce côté immédiat, qui est presque très étonnant d'ailleurs pour une émission de 1959, qui se trouve dans cette émission, qui a été éditée en CD dans la fin des années 90 par Yves Billy et Lina.
qu'est-ce qui vous saisit pour, dans un livre qui est quand même essentiellement consacré à l'art contemporain, tout d'un coup, mettre en avant la figure de Roger Pilaudin et celle de Jean Cocteau?
Il y a plusieurs réponses que je suis obligé d'amener pour que ça donne quand même pour que tout cela ait une certaine cohérence. Bon, déjà, le livre paraît après un autre précédemment paru, qui s'intitule « Les planètes sonores », et qui était en fait une petite histoire du son dans l'art contemporain, avec un aspect, disons, plus historique hein, sur la question du son dans les arts plastiques. Or, déjà, le sous-titre était le même, Radiophonie, Art, Cinéma. C'est-à-dire que la radio, d'emblée, moi, je travaille dans le champ de l'art contemporain, ouais. Je m'intéresse aux arts plastiques, c'est mon domaine d'étude, mais la radio m'a d'emblée paru un élément essentiel, parce que, précisément, le fait qu'il n'y ait que l'élément sonore, mais ce que n'est évidemment pas restrictif, il ouvre sur toute une variété d'écritures, disons un outil de travail tout à fait saisissant pour comprendre cette présence du son dans les arts plastiques. Donc, le premier relais se situe là, c'est-à-dire que ça permet de faire un lien avec l'outil méthodologique que j'avais essayé de mettre en place précédemment. Ensuite, et un peu pour les mêmes raisons, dans ce livre « Planète sonore », j'avais approché la question du son, voire de la radiophonie, comme une transmission avec l'au-delà, un voyage chez les morts. Et Cocteau, ça a été, dans son œuvre, une de ses grandes préoccupations esthétiques. Et donc, il était également parfaitement inscrit dans ce cadre-là.
C'est ce que vous appelez la nécrophonie ?
Voilà. Alors, à partir de cette question nécrophonique, Cocteau est vraiment saisissant. Il a passé son temps à converser avec les morts, et souvent par le biais du son. Et ensuite arrive ce journal sonore, qui donc est en fait le journal sonore du testament d'Orphée. Donc, Cocteau d'abord fait Orphée, donc qui est une variation très, très contemporaine, enfin de son temps, sur le mythe d'Orphée. Et ensuite, 10 ans après, il fait le testament d'Orphée avec une signification sensiblement différente, puisque à ce moment-là, Orphée, c'est lui, c'est le poète, il est au crépuscule de sa vie, et il a eu des grandes difficultés, comme ça a été dit d'ailleurs, à faire ce film, mais il réussit à le réaliser et à parler donc de l'au-delà. Et la photographie continue à être présente, et la nécrophonie continue à être présente. Donc il y avait finalement, avec cette œuvre magnifique, donc seulement le film, le Testament d'Orphée, mais aussi cette drôle d'expérience radiophonique, puisqu'effectivement Pilaudin fait un journal sonore. Et c'est tout de même extrêmement réalisé, c'est long, il suit Cocteau pendant tout le temps du tournage, et le travail de réalisation est assez singulier, parce que il y a donc des entretiens avec les acteurs, des prises de son in situ, des étranges focales dans la mesure où il enregistre les scènes en train de se faire, si bien que, comme il y a plusieurs prises, on ne sait jamais très bien dans quel espace-temps on se trouve, il prend la parole là-dessus, enfin, ça devient du coup un objet d'étude tout à fait intéressant, qui faisait le lien avec les interrogations précédentes et qui pouvaient ouvrir sur les futurs.
Sur les futurs, absolument, puisque la question de l'invisible ou du fantomatique se trouve au cœur de la deuxième partie concernant plus précisément les arts sonores, l'art contemporain sonore, qui est un de vos objets essentiels. C'est vraiment ça, cette question-là du son fantomatique qui finalement est une forme de mystère posée comme un défi à l'artiste, en quelque sorte.
Oui, alors ça rencontre une préoccupation de l'histoire de l'art du XXe siècle, c'est-à-dire, pour être très, très, très rapide, on pourrait dire qu'avec l'œuvre de Marcel Duchamp, l'art contemporain, enfin l'art plus exactement, l'art moderne, c'est préoccupé très nettement de la question de l'immatérialité, de sa dématérialisation d'une certaine façon. Et donc, dans ce long mouvement qui passe par des matériaux qui vont dans ce sens, le son peut apparaître. Donc, disons que pour des artistes plasticiens, le son peut aussi apparaître comme une histoire de cette immatérialité. Mais à cela s'ajoutent effectivement des préoccupations plus propres aux musiciens, comme le silence, qui est qui peut rentrer dans ce périmètre, j'aurais du mal à dire périmètre parce que c'est tellement vaporeux dont on parle, mais disons dans cet espace. Et puis ensuite des formes poétiques plus subtiles ou plus sophistiquées. C'est par exemple quand j'étudie le film de Yuri Sivan, c'est Marceline Loridan autour de une espèce de variation poétique sur l'histoire du bruit du vent, par exemple.
Mais là, d'ailleurs, c'est, je crois, un des derniers chapitres où il est question de l'histoire du vent. Il y a une histoire de vent, ce film de 88, donc de Yuri Sivan, c'est Marceline Loridan. Et vous arrivez sur la question de l'utopie, en fait. Enregistrer le vent, ben voilà, ça c'est une utopie. Comment enregistrer le vent, en rendre compte, sans que ça souffle dans la bonnette et que finalement l'enregistrement soit pas, ne soit pas utilisable, exploitable. Ça, c'est très vite une question, d'ailleurs, dans la postface, c'est la question de l'utopie. C'est la question de la cartographie d'une utopie, c'est ce que vous dites.
Encore une fois, disons que... il est question de son, mais inévitablement, il est question d'image. Et comme on a commencé avec Cocteau, il est aussi question de texte. Donc, le projet, disons, théorique, général, c'est de réfléchir sur les relations entre les arts. C'est ce que j'ai pu faire aussi d'autres membres, sur d'autres travaux. Donc, réfléchir sur les relations entre les arts, c'est, là, en l'occurrence, image-son, image-son-texte, et donc, relation entre les signes. Alors, il y a toute une part de sémiologie, d'esthétique. Et puis, je crois aussi qu'il y a une question d'utopie. C'est-à-dire que c'est espèce de conversation entre des signes hétérogènes, tels que les artistes les manipulent constamment, utiliser des sonorités, des bruissements, du matérialisme pour accompagner des éléments visuels. Bon, tout ça crée une espèce de volonté, utopique, et en tout cas de création d'un nouveau langage.
Oui, vous citez Lars Fredriksson à un moment donné, issu d'une archive de France Culture, il dit à un moment donné vouloir faire de la sculpture sans matière. C'est ça une utopie artistique ?
Oui, voilà. Alors ça c'est l'exemple même de l'artiste qui va au son, parce que précisément il se disait imagophobe.
Ouais.
Et donc il va vraiment à la sculpture avec le son, parce que précisément c'est une autre forme de matériaux immatériels.
Il y a d'autres figures, évidemment, qui traversent vos écrits. Tania Moureau, Alexandre Joly, Arnaud Maguet, qui, à différents degrés, d'ailleurs, utilisent le son ou ses propres représentations. Je pense à Arnaud Maguet, qui peut travailler sur des vinyles, qui travaille sur l'objet vinyle en tant qu'objet artistique contemporain. Et puis, vous parlez de Christian Marclay, aussi, d'ailleurs, sur une question de vinyle. Est-ce que vous pouvez nous expliciter ce passage-là ?
Alors... disons que au fil des pages, bon, j'essaie de faire sûrement pas un inventaire exhaustif, on s'en fout.
Non, c'est un journal audio biographique, mais c'est un journal et il y a justement une parole très même vous allez dans la première personne dans le jeu et c'est une des raisons pour lesquelles on a particulièrement apprécié ce livre. Donc voilà.
Merci, mais disons que effectivement, sans être dans le, j'ai pas voulu aller dans la tentative exhaustive, loin s'en faut, mais quand même répertorier un certain nombre de pratiques, ça c'est certain. Alors Christian Marclay, de ce point de vue-là, est très généreux. Enfin, il arrive sur une scène initialement, enfin en tout cas. Moi, je l'ai connu à travers ses travaux avec John Zorn, un musicien dont je parle également, très important pour la scène expérimentale, où il avait inventé une espèce de guitare avec un tourne-disque et phono-guitare, je crois. Et ensuite, très vite, il a construit des œuvres qui, passant effectivement par le vinyle, mais aussi par des vidéos autour de la thématique du son, toutes sortes de travaux qui liaient, la photographie également, toutes sortes de travaux qui finalement liaient constamment l'image et le son. Mm-hmm. On déclinait les possibles.
Arthur Gillet, vous vouliez intervenir, vous avez entendu Christian Marclay ou...
Non, c'était non un peu avant, mais c'était sur les sculptures sonores, donc sans images, les imagophobes. Et je réfléchissais, je me disais qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui travaillent dans le son travaillent toujours avec une image désormais, qui est la session numérique, disons, devant
la
eux.
La forme d'onde est forcément la
forme d'onde, ouais. On voit tout de suite, et je sais qu'en tant que musicien, on cherche des systèmes numériques tout de même, parce que c'est quand même aujourd'hui plus simple que l'analogique, quoique, où on n'a pas d'image justement. Et je suis toujours interloqué de voir des gens qui travaillent sur le son toute la journée devant un écran d'ordinateur. Et je me demandais si ça c'est quelque chose qui vous aviez abordé, ou en tout cas qui vous intéressait, ou si ça, vous pensiez que ça avait changé les pratiques, l'apparition de l'image pour les gens qui travaillent dans le son.
Alors en ce qui concerne Lars Fredriksson, on était avant l'écran. Hein. Bon. Mais effectivement, pour ce qui est des pratiques il est évident que la question du son dans les arts plastiques, qui est une histoire ancienne, enfin, si on en fait son histoire, on pourrait même remonter jusqu'au 19e siècle, voir des tentatives entre peinture et musique qui déjà se mettent en place. Et on décline une histoire extrêmement riche de ces relations. Mais il n'en demeure pas moins que dans les pratiques, il est évident que avec les années 90 et les années 2000, les matériaux se sont tellement ont tellement été rendus accessibles que finalement les studios à domicile, enfin tout ce que l'on peut faire sur l'ordinateur a permis non seulement beaucoup d'expressions artistiques, mais aussi les a extraordinairement facilités. Et des artistes qui avant devaient, par exemple, parce que les disques d'artistes, ça a toujours existé, mais devaient les presser dans les années 60 de façon assez coûteuse, à l'unité. Mm-hmm. Bon, il est évident que toute cette histoire est révolue et que on est passé au fil du temps de la cassette magnétique au disque compact, au fichier numérique. Il est évident que ce flux des pratiques a aussi apporté de nouvelles modalités très concrètes de création.
Et c'est vrai que le fichier, finalement, c'est une forme de dématérialisation du son, mais et en face, pendant la fabrication, il faut peut-être se détourner de l'écran de temps en temps pour garder une forme de surprise de l'oreille. C'est même des questions qui peuvent se poser pour nous, le genre de radio, de temps en temps. Alexandre Castan, je vous propose de rester avec nous. On a parlé déjà donc de ce journal audiobiographique chez Scala, mais on va continuer d'une certaine manière à en parler sans doute avec l'invité de la troisième partie de l'émission de ce soir, Nicolas Becker. Bonsoir Nicolas Becker.
Bonsoir.
On s'est permis un petit mixage.
Ouais, j'ai vu.
Non, vous l'avez vu? Voilà, il y a trop de formes d'ondes un peu partout, on voit tout. Non, oui, un petit mélange entre ce son de Ford Mustang Shelby que vous aviez enregistré pour un film, et puis ensuite on a entendu, enfin mélangé à tout ça, un morceau que vous avez co-composé avec le musicien électro lyonnais Agoria. Alors vous êtes sound designer au cinéma, beaucoup, aussi pour des films d'art contemporain, notamment, on l'a dit, pour l'artiste Philippe Parreno. Au cinéma, vous avez beaucoup travaillé avec Roman Polanski, mais aussi avec toute la génération Mathieu Kassovitz, Yann Kounen, Gaspard Noé, Nicolas Boukrieff, Christophe Gans. Là, je crois qu'il y a une bonne partie de la bande qui est listée. Philippe Parreno, donc, dans l'art contemporain, qui est un artiste multiforme. Mais vous-même, vous êtes un artiste multiforme, en quelque sorte, j'ai l'impression. C'est une manière de définir votre métier, s'intéresser à tout.
Ouais, moi, je sais pas si je pourrais parler de moi comme un artiste, mais plutôt comme quelqu'un qui a essayé d'être à côté de réalisateurs, de musiciens, d'artistes, pour essayer de les aider dans leur manière, peut-être, de sorte de travail synesthésique, c'est-à-dire d'essayer de leur amener un univers sonore qui puisse rentrer en résonance avec leur travail, que ce soit quel qu'il soit. Donc moi, mon travail, c'est plutôt une sorte de travail de
traducteur.
De traducteur, ouais, ouais. Je dirais. Ouais.
On discute beaucoup avec les artistes en amont, pendant la fabrication, que ce soit les films.
Moi,
cinéma,
c'est en tout cas, moi, je c'est ma manière. C'est comme ça que je travaille. C'est-à-dire que pour moi, ça commence vraiment très tôt. Ça peut s'échelonner sur plusieurs années. Je travaille avec des gens avec lesquels je construis un vrai travail sur des fois 10, 15 ans. Donc pour moi, oui, c'est vraiment un travail continu. Il y a pas, c'est pas un travail ponctuel. C'est un travail de découverte, d'enrichissement mutuel, de rencontre, de lecture, de, d'écoute, de plein de choses.
Ouais, je crois que vous dites ça quelque part. S'il faut conseiller, s'il faut conseiller quelque chose à quelqu'un qui veut faire votre métier, c'est surtout s'intéresser à tout. Quoi.
Ouais, bien sûr. Non, mais effectivement, parler de son, c'est très compliqué. Donc je pense que on a toujours envie et besoin de passer par la littérature, par la peinture, par la musique, par d'autres modes d'expression pour des fois permettre aux gens de comprendre ce dont on parle. Donc ça demande effectivement une ouverture d'esprit, une capacité à créer des liens. Et je pense que du coup, définir des liens entre des espaces de travail qui sont très très différents, ça permet aussi de créer des nouveaux territoires. C'est-à-dire d'associer une peinture avec un son, d'associer un texte avec, je sais pas, un enregistrement, ça peut, ça peut créer des territoires intéressants. C'est ça qui m'intéresse, c'est travailler dans ces nouveaux territoires avec ces gens et partager cette quête, voilà.
Fabriquer des territoires éphémères.
Voilà, exactement.
Ouais, c'est une belle définition pour quel que soit le métier d'ailleurs. Alors, vous parliez de rencontre à l'instant, Nicolas Becker, la rencontre que vous avez faite avec Philippe Parreno, ça s'est passé sur un film dont on va parler rapidement. Est-ce que vous faisiez partie de l'équipe de ce Zidane portrait du 21e siècle dont on se souvient peut-être, puisque c'était signé Philippe Parreno et Douglas Gordon, si je ne me trompe pas, qui était un film d'art, mais qui s'est trouvé d'ailleurs dans les cinémas pour tout un chacun, dans les cinémas, dans les circuits traditionnels, on va dire. Une caméra suivait Zinedine Zidane pendant tout un match en 2006 du Real de Madrid, une expérience étonnante et une expérience de son étonnante. Et il se trouve, Alexandre Castan, que dans votre livre, dont on parlait à l'instant, le journal audiobiographique, il y a une partie d'un chapitre où vous parlez de ce film et notamment à travers son son. Vous dites que l'écoute de ce film-là est le miroir inversé de l'image. Ça veut dire quoi ?
C'est tout un ensemble de repérages que j'ai essayé de faire sur ces moments où le son est extrêmement matériste. Mm-hmm. Donc, on a une espèce de plasticité du son dans le film. Cette plasticité, oui, qui renvoie à des effets de perception, mais véritablement tels que on peut les ressentir lorsqu'on est à la découverte d'une matière, du chaud, du froid, du dru,
de la métaphore pour parler du son.
Oui, mais c'est un peu inévitable. Ouais, c'est un des enjeux de la critique du son. Et alors, juste pour conclure, c'était un peu l'effet justement inversé de l'image, parce que c'était quand même par rapport à la question, disons que le son prend en charge une forme de plasticité qui existe aussi dans l'image, mais un peu autrement.
Qui est partagé aussi par le son Nicolas Becker, vous vous y occupez justement de cette question de proximité.
Oui, justement, avec le corps en fait, je pense que Philippe et Parreno, ça l'a fait assez rire quand il était rentré dans l'auditorium, parce que comme je refaisais mon travail, c'est de refaire tous les sons personnels, tous les sons propre de Zinedine Zidane, j'avais fait venir des vrais rouleaux d'herbe dans le studio et donc j'avais entièrement transformé le studio d'enregistrement en morceaux de terrain de foot. Donc je pense que rentrant dans ce noir et voyant tout ce vert comme ça, ça a dû lui plaire. Non, mais ce film est très intéressant effectivement parce que on n'est que sur Zidane. Et donc on ne voit pas tout, enfin le hors-champ visuel il est gigantesque, donc il y a un effet d'échelle qui est complètement incroyable, et à l'inverse le son aussi travaille sur une sorte d'effet d'échelle inversé où tout d'un coup on peut, alors qu'on est sur l'oreille ou sur juste une petite partie du visage de Zinedine Zidane, on peut avoir la foule de 50 000 personnes qui sont en train d'hurler, et inversement il y a des moments où on peut voir cette foule et entendre juste le son d'un pas. Enfin, il y a un travail sur l'espace et l'échelle qui est très intéressant dans ce film, moi je trouve.
Une autre histoire de son d'un film sur lequel vous avez travaillé, c'est Gravity d'Alfonso Cuarón, 2013, le roi des Oscars il y a 3 ans avec Sandra Bullock et George Clooney.
Houston, I have a bad feeling about this mission.
Please elaborate.
That's the same feeling I had about Mardi Gras 1987.
That is affirmative. Surprisingly, control hasn't heard the Mardi Gras story. Please proceed.
Well, it's day one, and I'm bumping my way down Bourbon Street looking for a sister of a friend of mine. The streets are full of people. I'm thinking there's no way I'm going to find this girl.
Proceeding to override.
Then all of a sudden, I look up, and there she is. I'm about to yell at her, and I see she's holding hands with some short, hairy guy in board shorts and a Margaritaville shirt. And then I realize that this guy is not a guy, that my girl is holding hands with
ISS, this is Houston. Of course, Houston.
Explorer, this is Houston.
Go ahead, Houston.
Mission abort. Repeat. Mission abort. Initiate emergency disconnect from Hubble. Begin re-entry procedure. ISS, initiate emergency evacuation.
Copy all, Houston, end in work. Matt, immediate return to Explorer. Repeat, immediate return to Explorer.
Copy, Explorer. Prep airlock.
Airlock engaged, ready to receive.
Houston, elaborate.
Debris from the missile strike has caused a chain reaction, hitting other satellites and creating new debris. Traveling faster than a high-speed bullet up towards your altitude. Now copy.
Copy all. Put a bow on it, Dr. Stone.
I can't.
Alors il se trouve, Nicolas Becker, que le son de Gravity fait l'objet d'un article de la revue Tasset qui est paru il y a quelques mois et dont le titre de ce numéro était Sonorité d'Utopie. L'utopie étant celle de créer du son dans l'espace. J'imagine que c'est une question qui se pose dans ce cas-là.
Absolument. Ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est vraiment de créer des grammaires. C'est-à-dire que quand on m'appelle, c'est pour essayer de dire voilà, on est dans l'espace. Comme qu'est-ce qu'on peut entendre sur Océan, c'était on est sous l'eau. Qu'est-ce qu'on peut entendre là récemment, je viens de travailler sur le film de Denis Villeneuve, qui est un film de science-fiction. Il m'a demandé de fabriquer la voix des extraterrestres gazeux qui venaient sur la planète. Mm-hmm. Donc à chaque fois, moi, c'est un travail extrêmement expérimental où je vais me plonger en studio. Et je vais essayer de travailler avec plein de micros, de textures, d'objets, d'instruments, etc. Et essayer de fabriquer, en fait, de trouver ces sons qui sont, en fait, qui n'existent pas, en fait. Donc, effectivement, c'est une forme d'utopie de fabriquer des sons qui n'existent pas déjà première. Et c'est vrai que là, on s'est posé, enfin, moi, je me suis très vite posé la question, comme je suis bruiteur de formation et ouais, que j'ai un rapport au corps qui est très important dans la production du son. Je me suis dit, voilà, si on n'entend pas forcément au niveau aérien, on peut entendre au niveau solidien. Mm-hmm. C'est-à-dire que dès qu'on est en contact avec un objet vibratoire, on peut par contre entendre via toutes les résonances caverneuses de son propre corps. Donc en fait, j'ai utilisé mon corps comme une sorte de filtre. Donc je me suis collé des micros sur le corps et j'ai utilisé mon corps comme une sorte de filtre audio. Donc j'ai fabriqué tous les sons et à chaque fois ça traversait mon crâne ou ma tête, mes bras, etc. Donc pour essayer de retrouver une sorte de côté comme ça immersif et peut-être quelque chose d'archaïque aussi. En plus on voit ces corps plongés dans le bleu comme ça. Donc il y a un rapport très direct avec la vie fœtale aussi. Mmh, mmh. Donc je pense que la vie utiliser des hydrophones, des micro-contacts, c'était aussi peut-être replonger les gens dans une sorte de monde archaïque qu'ils avaient vécu avant leur naissance. Voilà.
Voilà, donc on vous entend. En fait, vous êtes le troisième comédien à côté de Georges Clooney et de Sandra Bullock. Dans Gravity.
J'avais pas eu le temps de voir la fin du mixage et quand je suis venu voir le film pour une première fois, j'ai compris que le rumble, cette sorte de basse fréquence qu'on entend pendant tout le début du film, qui est une sorte de résonance de l'univers, en fait c'était le son de ma tête. J'ai presque vissé des micros dans mes dents et en fait on entendait le son du travail presque organique et c'est ça qui est devenu une sorte de base c'est assez étonnant de voir ça. Découvrir ça en projection, de se dire tiens, c'est le son de ma tête.
Ça me dit quelque chose. Bah oui, c'est normal, c'est ce que j'entends régulièrement. Bah oui, mais on n'est pas très loin de ce que disait Arthur Gillette tout à l'heure sur cette musique, elle est de l'intérieur du corps. Ce qu'on comprend, Nicolas Becker, c'est que vous aimez l'expérimentation, y compris dans la captation des choses, dans l'idée du prototype ne vous fait pas peur.
Non, pas du tout. Moi, justement, c'est pour ça que travailler dans le champ de l'art contemporain et de la musique m'a vraiment été une sorte de deuxième renaissance, parce que le cinéma est un processus de travail quand même assez industriel, où la taylorisation fait rage et l'hyperspécialisation détruit un petit peu des fois la magie du travail. Et donc le fait de me retrouver avec des musiciens ou des artistes, ça m'a permis justement de me re de me repositionner par rapport à ça et de vraiment de travailler de manière expérimentale ce que j'avais toujours envie de faire. Mmh. C'est-à-dire que pour moi, c'est ce que je préfère faire, c'est aller enregistrer des sons, les produire, les agencer, fabriquer des nouveaux systèmes de microphones, de diffusion. Enfin, essayer de vraiment, c'est le côté Francis Bacon, pas le peintre, mais le philosophe. C'est-à-dire vraiment.
Celui de la Nouvelle Atlantique, voilà, de fabriquer la machine. Ouais.
La maison des sons.
La maison des sons sur cette île utopique. Mais ça signifie que, comme vous dites, inventer une grammaire. Est-ce qu'on retire quand même d'une expérience à l'autre des leçons, des manières de faire, ou préférez oublier?
En général, moi, j'essaie toujours de. En fait, j'utilise quasiment tous les sons que j'enregistre qu'une fois. À part des sons que j'aurais du mal à, disons, dans un budget, s'il fallait que je réenregistre un son en Australie, c'est pas possible. Mais à partir du moment où ça m'est possible, j'essaye à chaque fois de faire page blanche et de repartir de zéro.
Est-ce que ça implique que vous n'avez pas de sonothèque? Les gens dans le cinéma souvent ont une grande sonothèque.
J'ai une immense sonothèque, mais en fait, qui me permet de, on va dire, produire mes nouvelles expériences.
D'accord.
Je vends les sons que j'ai pas utilisés quelques temps après dans les films. Je les vends à plein d'autres monteurs sons. Et ça me permet, moi, de partir. Des fois, je vais partir une semaine dans une forêt, ou une semaine dans des grottes, ou une semaine sous l'eau, ou une semaine, et je vais capter les sons pendant une semaine, comme ça.
Et ça se décide comment? Parce que, donc, si je comprends bien, c'est pas en fonction d'une commande précise. Vous allez chercher les sons dans les grottes, voilà.
Est-ce que c'est souvent lié un petit peu à des projets, mais il y a des fois, je me fait plaisir un petit peu, voilà. Donc c'est quand même souvent c'est, ou alors on va dire que c'est un peu une rencontre des deux, c'est-à-dire que des fois je force un peu la main, c'est-à-dire que je pense que c'est une rencontre entre un projet et puis des choses qu'on a aussi envie de travailler, envie de proposer, et on essaye un petit peu d'attirer l'attention sur ces choses-là, donc c'est une sorte de, voilà, d'échange, on va dire.
Oui, et ce que vous dites, la conversation avec l'artiste, avec le cinéaste en particulier, est fondamentale. Vous dites quelque part qu'il y a un lien profond entre ce que vous voulez faire dire à travers un film et la manière même d'enregistrer le son en fonction de ça.
Oui, c'est-à-dire qu'on peut, travailler vraiment. On peut vraiment travailler le son. Moi, c'est ce que je fais, c'est que je travaille en pré-production, et en général, je travaille en symbiose avec l'ingénieur du son, du plateau, le chef opérateur, les décorateurs, les costumiers. C'est-à-dire que j'essaie vraiment de prendre en compte, parce que c'est ça qui est intéressant dans le travail du cinéma, cette sorte de complexité. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de paramètres absolument incroyables à prendre en compte si on veut bien faire son travail. Et je pense que c'est une expérience très intéressante, et c'est pour ça que je pense que Philippe Areno et moi, on s'est très bien entendus, puisque lui, comme il fait un travail extrêmement complexe, le fait d'avoir une sorte de capacité à prendre en compte énormément d'éléments, ça, c'est des choses qui viennent en fait beaucoup avec l'expérience de travail. C'est-à-dire le fait de travailler sur beaucoup de films, dans des films historiques, des films de science-fiction, des films d'auteur, des films, des comédies, ça permet d'engranger une énorme mémoire d'expérience. Ça c'est l'expérience, mais après moi ça me donne d'autant plus de liberté pour essayer de mettre en place un travail prototypal sur les films sur lesquels je travaille. One door leads to the hallway, one door to a closet. In the closet there is a luggage rack. The walls are covered with wallpaper. Wallpaper with gold flowers and black stems. There are two openings. One leads to the living room. The walls in both rooms are painted a sand color. The wall-to-wall carpeting matches the walls.
C'est la voix? Peut-être, de Marilyn Monroe, c'est ça, Nicolas Becker?
Oui, en fait, Philippe voulait faire un travail sur l'identification d'une icône, et donc l'idée, c'était, dans ce film, reproduire son écriture, sa voix et son regard. Donc, pour ce faire, moi, quand je travaillais sur le film 127 heures, j'avais appris que quand des acteurs, des fois, sont plus sous contrat, on demande à des voice-like, c'est-à-dire à des gens qui viennent faire leur voix à leur
des
place.
Des sosies de voix.
Des sosies de voix. Mmh. Et donc j'avais trouvé ça assez incroyable, c'est une chose qu'on connaît pas en France. Donc j'ai très vite parlé de ça à Philippe, Et on est allé faire un casting de ces voice-like à Los Angeles et à New York. Et on a trouvé une personne absolument incroyable qui avait une... le timbre parfait de Marilyn Monroe. Puis à un moment donné, on l'a enregistré et ça marchait pas. Et donc on est allé travailler avec les gens de l'IRCAM. Et en fait, on a découvert quelque chose que moi, je ne connaissais pas. C'était en fait, on reconnaît une voix non pas à cause du timbre, mais à cause de la prosodie. C'est-à-dire vraiment le chant de la voix. Voilà. C'est vraiment le chant de la voix qui nous fait reconnaître ça. Donc on a repris énormément d'enregistrements de Marilyn Monroe et on a fabriqué une sorte d'algorithme qui était un peu complexe pour essayer de retrouver cette sorte de prosodie.
Donc sur la base de cette sosie vocale,
voilà. Le travail était fait à 90% ouais. au niveau de la performance, et après nous on a fait des ajustements, et c'était étonnant quand on a passé le film la première fois, c'était à la Fondation Belayer à Bâle, il y avait beaucoup d'Américains qui étaient dans la pièce, et certains pleuraient parce que
c'était elle, en fait.
Oui, parce que c'était un peu refaire vivre les morts, un peu comme on disait tout à l'heure, c'était une sorte d'acte de résistance par rapport à ça, c'était très... très étrange, quoi.
Oui, quand on sait la force d'évocation, de présence simplement d'une voix, effectivement, pour ceux qui avaient la voix de Marilyn dans l'oreille, ça a dû être une grande émotion. Alexandre Castan, vous vouliez poser une question à Nicolas Becker à propos de Roman Polanski.
Oui, c'est-à-dire que ce qui est fascinant dans l'œuvre de Polanski, c'est son système de narration extrêmement sophistiqué et imparable. Enfin, c'est des constructions fictionnelles tout à fait parfaites. Et dans ce cadre-là, alors là, pour le coup, vraiment, il y a quelque chose d'assez clos dans ces narrations. Comment ce travail justement sur la matière sonore et peut-être s'organise et existe-t-il et y a-t-il des effets de sens qui peuvent être véhiculés par justement ce travail sur le son?
Roman Polanski, grand technicien, vous dites.
Oui, immense technicien. Oui. Ouais. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, pour avoir fait quand même pas mal de films avec lui, c'est qu'effectivement, c'est un très grand technicien, qu'il a une grammaire assez simple. C'est-à-dire, on est vraiment dans des layers, dans des couches de sons qui sont très simples, les effets, les bruitages, les voix, les musiques. C'est très, il y a un côté très années 60, 70, même sur des films récents. Il aime bien vraiment, et je pense que c'est bien parce qu'on est des fois rentré dans une telle complexité de fabrication de sons que finalement pouvoir retrouver des rapports comme ça entre les différentes couches de narration sonore possible, c'est quand même extrêmement. Moi, je trouve ça très très bien. Après, il avait. Moi, je me souviens d'une séance assez incroyable sur Le Pianiste, où pendant une journée, il nous avait effectivement reparlé de tous ses souvenirs d'enfance, et notamment du tir des Allemands quand ils se faisaient tirer dessus par les Allemands. Le fait qu'on savait jamais, on savait jamais où ça allait arriver, puisque finalement la vitesse de la balle et la vitesse du son étaient quasiment identiques. Ouais. Donc en fait, l'impact arrivait au même temps que le coup de feu. Donc il y a dans ce film-là tout un travail là-dessus sur le fait que on ne sait jamais où ça va arriver, et le son est toujours un petit peu off-beat après. Et donc ça
crée, trop tard.
Trop tard. Donc on a plus le temps de réagir. Donc c'est une sorte de voilà, on est dans le sac, quoi.
Nicolas Becker, est-ce que vous diriez que vous êtes un artisan qui réussit à faire son travail au milieu d'une industrie?
Ouais, industrie. Il y a dans la musique, il y a aussi une forme d'industrie. Dans l'art, il y a une forme d'industrie aussi, même si c'est pas la même niche. Enfin, c'est d'autres niches. Je pense que.
Mais vous agissez aussi, d'ailleurs.
Oui, hein. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que chaque domaine a un peu. J'essaie de me préserver. Je n'ai toujours accepté depuis 25 ans des projets que j'aime. Voilà. Donc c'est toujours. Je peux très bien refuser un film américain puis travailler avec une artiste japonaise qui a pas d'argent pendant 2 mois, et puis après bon, c'est pas forcément toujours facile de trouver de réussir à trouver un équilibre, mais vraiment je continue d'essayer de fonctionner comme ça, c'est-à-dire fonctionner au coup de cœur, aux envies, aux rencontres. Voilà, donc après,
vous êtes un traducteur heureux.
Après, on se débrouille. Voilà.
Merci beaucoup d'être passé par ici.
Merci.
Nicolas Becker, Alexandre Castan et Arthur Bégilet étaient les invités de l'émission de ce soir. Pour aller plus loin, il y a franceculture.fr à la page de Supersonic. Vous y trouverez tous les compléments à l'émission de ce soir et dans 214 ans, par exemple. Vous pourrez retourner et réécouter l'émission, car oui, la réécoute, c'est pour toujours sur franceculture.fr. L'émission a été préparée et coordonnée par Inès De Bruyne et réalisée par Luc Jean Reynaud. Et au son supersonique, il y avait Eric Boisset. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec les nuits de France Culture qui sont ponctuelles. Nous, on se retrouve samedi prochain à pile 23h. D'ici là, portez-vous bien.